nous allons consacrer ce séminaire qui s'inscrit dans le cycle des séminaires que nous avons lancé désormais il y a presque 2 ans et qui est consacré au libéralisme dans tous ses états. Cycle de séminaires qui est dirigé par notre collègue Nathalie Champroux, qui est professeure des universités en civilisation britannique, et par Nathalie Lévy, qui est maîtresse de conférences en économie. Les deux étant à l'université de Tours, donc elles ont initié ce beau projet. On s'est un peu tous raccrochés à ça tellement c'était intéressant. Et puis le cycle continue. Il était censé s'achever par un colloque qui a eu lieu au printemps. Colloque qui a su fédérer bon nombre de collègues de l'étranger aussi, et puis sur des dynamiques très intéressantes. Et nous travaillons actuellement à la publication de ce colloque. Et puis, on s'est rendu compte aussi, en mettant en place ce colloque, que finalement, nous n'avions pas épuisé le sujet. Et donc, les séminaires qui auraient dû s'achever au printemps continuent en ce premier jour d'été. Donc, il y en a eu d'autres hein, qui ont eu lieu au mois de mai, au mois d'avril également. Et puis, sachez que nous travaillons également un nouveau cycle de conférences qui débutera à l'automne. Alors, le projet n'est pas encore arrêté. On y travaille, mais voilà, on est quand même sur une très, très belle dynamique. Je tiens vraiment à remercier Nathalie Champroux et Nathalie Lévy de l'avoir initiée. Comme ça, c'est très, très, très intéressant. Et donc, nous allons accueillir et entendre aujourd'hui Karine Abderrahman, qui est donc maître de conférence en droit public à la faculté de droit de Sceaux de l'Université Paris-Saclay. Karine Abderrahman, que nous avons eu le plaisir d'avoir en tant que collègue à l'Université de Tours jusqu'en juin dernier et qui est désormais donc à la faculté de droit de Sceaux. Et donc, Karine Abderrahman est spécialiste de droit de l'Union et elle s'intéresse plus particulièrement à toutes les questions qui sont liées à la solidarité, à l'intégration européenne, tout ce qui est plus largement le droit européen de l'intervention publique, le droit des libertés, etc. Et elle va nous faire aujourd'hui une intervention qui est consacrée au libéralisme dans le droit européen de la coopération Union européenne, Afrique. Nous avons donc 40 minutes environ de plaisir à t'écouter, Karine. Et puis ensuite, nous entrerons dans le fameux jeu des questions-réponses que j'aurai aussi le plaisir d'animer. Donc, à ce moment-là, j'invite les participants à mettre peut-être leurs questions dans le fil de discussion. On les envisagera ensuite par la suite et puis il ne faudra pas hésiter à prendre la parole, bien évidemment, une fois que Karine aura terminé. Karine, c'est à toi.
Merci Selma, merci à tous les organisateurs de ce cycle de conférences, de ce beau colloque que j'ai pu suivre en partie en distanciel et surtout pour cette très belle idée hein, de ce projet pluridisciplinaire consacré au libéralisme dans tous ces États. Alors, évidemment, la question du libéralisme est un enjeu majeur du droit, un enjeu épistémologique que j'ai souhaité placer au cœur de mon intervention sur le libéralisme dans les relations UE-Afrique à la lumière du droit européen de la coopération. Ce droit européen de la coopération, il est révélateur d'une approche plurielle hein, du libéralisme, une approche également ambivalente, qui invite à poser de nombreuses distinctions entre le libéralisme économique, politique, classique, néo, ultra, voire le capitalisme. Et pour bien souligner les ambivalences des expressions du libéralisme et leur articulation, en tout cas, c'est l'objet de mon intervention, c'est de souligner ces ambivalences. Et pour le faire, j'aimerais en premier lieu et en introduction clarifier quelques étrangetés que vous pouvez lire dans mon intitulé. Le libéralisme dans les relations UE-Afrique. Ça peut paraître un peu étonnant hein, de mettre en lien ainsi l'Union européenne, qui est une organisation internationale de nature intégrative, dont les bases sont basées sur une intégration commerciale, la réalisation d'un marché intérieur qui ensuite s'est élargi à une union économique et monétaire et qui porte pour beaucoup les critiques quant à l'idéologie libérale qui sous-tendrait sa construction européenne. Donc une organisation internationale d'une part et d'autre part un continent composé de nombreux pays africains de 54 pays qui s'organisent également en organisation panafricaine comme l'Union africaine, en organisation intégrée, hein, commerciale et en tout cas régionale intégrée comme la CEDEAO et en plusieurs organisations internationales spécifiques comme par exemple l'Organisation africaine pour la propriété intellectuelle. Alors, s'interroger sur les relations UE-Afrique, c'est déjà poser en ces termes une équation qui préjuge d'une unité économique et politique, sociale, d'un continent qui précisément revendique l'absence de cette unité, en du moins la pluralité de ces cultures, de ces organisations. Alors, je vous le disais, mettre en liaison l'Union européenne, qui est une organisation internationale de nature intégrative et dont on a, ça aurait pu être le sujet d'une intervention, qui a dû subir de féroces critiques quant à l'idéologie libérale qui sous-tendrait sa construction. Et cette critique, elle a trouvé son apogée lors de la ratification du traité établissant une constitution pour l'Europe en 2004 et à l'occasion de laquelle j'intervenais dans le cadre d'une conférence organisée par l'Université de Poitiers alors, en posant la question, est-ce que le traité établissant une constitution organise une Europe libérale? Alors pour y répondre, il faut bien sûr s'interroger sur les différentes formes de libéralisme qui peuvent d'emblée être organisées, promues par le droit de l'Union européenne, clarifier la constitution économique de l'Union et la mettre en parallèle avec le processus d'intégration politique, les conditions d'appartenance à l'Union européenne, telles que celles-ci ont été progressivement introduites et approfondies dans le cadre de cette construction. Cette clarification, elle doit porter également, elle doit s'intéresser aux relations dans le cadre UE-Afrique. Et on voit déjà que le droit européen de la coopération va avoir un impact sur ces relations, va avoir un premier impact dès lors que les relations organisées dans le cadre du droit européen de la coopération s'adressent non pas à l'Afrique en tant que continent, mais progressivement à des États réunis en association dans un groupe ACP. Alors, on va voir ce qui s'est passé un petit peu avant quand même. Un groupe ACP recomposé de 79 pays et constitué à cette fin, aux fins de négociations avec la communauté économique européenne d'alors, pour mieux négocier le nouveau cadre de leur coopération. Cette transformation qui se poursuit avec l'accord post-Cotonou, alors dont je n'aurais pas pu parler aussi bien, si tant est que j'en parle bien, mais en tout cas aussi librement avant le 15 avril 2021, puisque cet accord dit post-Cotonou a été signé par les parties à cette date et il prolonge le cadre de coopération globale dont nous allons parler ensemble. Et le prolonge grâce à la révision de l'accord de Georgetown en 2019, une révision d'accord qui va consacrer, qui va faire de ce groupe des pays dits ACP, Afrique, Caraïbes, Pacifique, une véritable organisation internationale. Donc vous voyez que le cadre de négociation entre l'Union européenne et ces pays a déjà favorisé la transformation du cadre institutionnel lié à la représentation de ces États africains auprès des institutions européennes. Cette coopération que nous allons voir principalement dans le cadre des relations UE-Pays-ACP, il faut d'emblée préciser qu'elle n'est pas aussi simple et qu'elle, en tout cas, qu'elle implique une lecture un peu plus complexe, puisque cet accord cadre n'exclut pas des relations multilatérales différentes, telles que celles qui peuvent être promues dans le cadre des relations avec l'Union africaine. On peut citer par exemple l'Alliance Afrique-Europe qui en 2017-2018 va favoriser l'investissement et les emplois durables en Afrique, dans le cadre d'une stratégie développée dans le cadre des relations avec l'Union africaine. Elle n'exclut pas non plus des relations bilatérales et pour le cadre de la coopération économique, on peut citer justement la promotion, on y reviendra, de ces relations bilatérales dans le cadre de la signature des accords de partenariat économique. La Côte d'Ivoire, par exemple, ayant très tôt signé un accord de partenariat économique intermédiaire avec l'Union européenne dès 2008, entrant en vigueur en 2016. Donc ces relations UE-Afrique doivent tenir compte de l'évolution d'un cadre juridique qui est patiné par le droit européen de la coopération. Et l'évolution de ce cadre juridique, il faut le préciser en introduction également, doit tenir compte, en tout cas il faut clarifier que ce cadre de juridique doit être apprécié au regard de l'évolution des compétences de la communauté économique européenne, en passant par la communauté européenne jusqu'à l'Union européenne d'aujourd'hui, une évolution des compétences de cette communauté européenne dans le champ de son action extérieure de l'Union. Alors, si le traité de Lisbonne a apporté une simplification à la lecture de ses compétences, il faut savoir que ce champ d'action extérieure de l'Union, ce qui permet à l'Union européenne aujourd'hui d'agir avec les États africains, eh bien ce champ de l'action extérieure, certes, est articulé par un certain nombre de principes qui simplifient ce cadre institutionnel et les principes directeurs qui gouvernent l'ensemble de ces politiques qui entrent dans les relations extérieures de l'Union. Toutefois, pour le cadre des coopérations avec les pays africains, eh bien, il faut compter avec une compétence particulièrement spécifique, celle de la politique européenne de sécurité commune et de défense, la PESC, dont les actes ne sont pas soumis au contrôle de la Cour de justice, comme d'une compétence partagée spécifique, c'est-à-dire une compétence partagée pas comme les autres, dans le cadre de la coopération et du développement. Ça, c'est aussi une stratégie de la part des États membres, notamment de la France, au moment de l'inscription de cette base juridique dans les traités, ou encore d'une compétence exclusive de l'Union européenne en matière de politique commerciale, ce qui, même les juristes les non-juristes devineront facilement, implique que l'Union européenne, dans ce domaine, puisse agir seule, sans ses États membres, pour faire simple. Ce cadre de coopération, il doit également être apprécié à la lumière de l'article 8 du traité sur l'Union européenne qui prévoit à cet article 8 ce que l'on appelle la politique de voisinage. Alors, je l'avais mis là, mais je ne l'ai plus. Et cet article 8 prévoit des relations, je vais vous lire quand même, c'est plus clair, que l'Union développe avec les pays de son voisinage. Alors, reste à savoir si l'ensemble des pays africains font partie de ce voisinage. Et on verra que cette notion de voisinage a beaucoup évolué ces dernières années. En tout cas, que l'Union développe avec les pays de son voisinage des relations privilégiées en vue d'établir un espace de prospérité et de bon voisinage fondé sur les valeurs de l'Union et caractérisé par des relations étroites et pacifiques reposant sur la coopération. Donc ces relations UE-Afrique s'apprécient également au regard de cette politique de voisinage. Alors on voit que le droit européen de la coopération qui régit les relations UE-Afrique repose sur une équation complexe qui réunit une pluralité d'acteurs qui sont cachés derrière une apparente simplicité d'une coopération entre une organisation internationale et un continent, ou aujourd'hui, pourrait-on dire, du moins deux organisations internationales, si l'on considère l'Organisation des États d'Afrique Caraïbe-Pacifique. Alors, après cette identification un peu complexe des acteurs impliqués dans le cadre de cette coopération, il faut en venir au cœur de l'intervention et à la question de la nature du libéralisme pratiqué par l'Union européenne. Quel est le libéralisme pratiqué dans le cadre des relations UE-Afrique? Est-ce un libéralisme politique, économique, classique, néolibéral, ultra-capitaliste, etc. Sans approfondir tout de suite cette question, nous informons que nous allons veiller à poser une distinction dans notre intervention entre libéralisme économique et libre-échangisme, entre libéralisme individuel et libéralisme politique, en le mettant en perspective toujours avec l'évolution de cette conception du libéralisme telle qu'il est par ailleurs consacré en droit de l'Union. Alors, on sait que ces distinctions, elles ne sont pas propres au droit européen, et Nicolas Rousselier, par exemple, a déjà, avec d'autres auteurs, montré comment le lien entre libéralisme économique et politique n'était pas nécessairement ténu, puisque historiquement, le libéralisme économique ne remet pas nécessairement en cause le système monarchique, et que le despotisme a même pu être considéré comme une voie privilégiée pour établir et maintenir le libéralisme économique. Donc c'est cette articulation-là que nous essaierons de mettre en évidence, étant donné que, et c'est Nicolas Rousselier là encore qui le montre, que l'alliance, la synchronisation, je dirais, les noces, il parle de noces, entre libéralisme économique et politique, n'est pas naturelle, elle ne le sera pas nécessairement et pas tout à fait non plus dans le cadre des relations UE-Afrique. L'histoire de ces libéralismes nous enseigne toutefois qu'il y a bien une interaction entre ces différentes formes de libéralisme, une interaction que nous allons essayer de mettre en évidence en prenant comme point de référence, en essayant d'éclairer ces formes, ces expressions des libéralismes dans le droit européen de la coopération de l'Afrique, au regard de deux histoires. Tout d'abord, on regarde l'histoire du droit international, je suis toujours dans mon introduction, mais également en précisant au regard de l'histoire de la construction européenne. Alors, au regard du droit international, tout d'abord parce que le droit de l'action extérieure de l'Union européenne est un droit qui s'inscrit dans l'histoire plus large du droit international libéral providence. Et cette histoire du droit international libéral providence a été particulièrement bien mise en lumière par Emmanuelle Joannet en 2011 dans un ouvrage où elle rappelle, où elle explique les deux finalités, l'une libérale, l'autre providentielle, qui ont progressivement fait évoluer le droit international dans ses concepts, dans les règles qu'il a réussi à poser et à imposer. Cette histoire souligne donc les enjeux de ce libéralisme en droit international. Et dans cette histoire du libéralisme, on observe que, selon une conception plus classique du droit international, le libéralisme est entendu comme ce droit vattélien, se traduit en tout cas dans ce qu'on appelle le droit vattélien du droit international, ce droit des princes organisant la liberté de ces princes, organisant des règles de bonne conduite qui forment donc une espèce de droit de police interétatique et ne s'intéressant pas toutefois à un droit des peuples. Dans cette conception classique du libéralisme dans l'histoire du droit international, le libéralisme s'attache donc et est porté aux États, est rattaché aux États, d'abord aux princes puis aux États, et se traduit par le principe de la souveraineté-liberté. C'est ce qui va fonder l'idée d'un consensualisme en droit international, c'est-à-dire que ces règles du droit international sont définies par les sujets de droit international, que sont les États, et qui sont des règles qui sont justifiées par l'expression de leur consentement. Alors, dans cette histoire du droit international, Manuel Joannet, je passe plusieurs étapes, bien sûr, a également montré que cette finalité libérale, elle n'avait pas bénéficié d'une lecture linéaire. Une lecture linéaire, elle parle régulièrement de lecture même à front renversé, puisque dans le contexte de domination de l'Europe sur le reste du monde, en particulier en Afrique à la fin du XIXe siècle, le droit international libéral, au nom de la prospérité des peuples, va permettre de justifier précisément que des États européens puissent dominer les États et les pays africains, les peuples africains. Donc, autrement dit, la finalité providentielle de ce droit international va justifier des missions civilisatrices de ces pays considérés comme non civilisés, va consacrer en quelque sorte, et c'est un paradoxe, une juridicisation de l'inégalité et de la domination. Et cet élément, on le verra, est important pour comprendre dans quel cadre et dans quelle histoire s'inscrit le droit européen de la coopération. Donc la finalité providentielle, juste parce que je ne suis pas certaine de l'avoir dit très clairement, la finalité libérale donc c'est du droit international, c'est la souveraineté-liberté, hein, pour faire vite, et la finalité providentielle, eh bien, c'est l'idée hein, que le droit international, qu'il y a des biens qui s'imposent aux États, et cette notion de biens qui s'imposent aux États va prendre des qualifications et des identifications différentes. Cela pourra être le bien-être, mais plus tard le progrès, le bonheur, la justice sociale, plus récemment encore le bien commun. Hein. Donc le droit international sera défini progressivement par au regard de ces deux finalités qui montrent qu'il y a une place variable, évolutive en droit international des formes de libéralisme telles que consacrées donc par ce droit. Le droit d'action extérieure de l'Union donc s'inscrit dans cette histoire et on le verra, il s'en démarque également. Je vous l'ai dit, j'aimerais aussi que cette intervention soit lue au regard de l'histoire de la construction européenne, alors elle est bien connue, je ferai court et simplement je dirais que cette histoire de la construction européenne, elle est importante pour comprendre aussi les choix du droit européen de la coopération, en tout cas les développements du droit européen de la coopération. Cette histoire de la construction européenne, elle est assez originale, puisque les États fondateurs de la communauté économique européenne, les États membres actuels de cette Union européenne, ont fait le choix de l'intégration. Une intégration qui, historiquement, hein, encore faut-il le rappeler, visait, alors je vais très vite, hein, mais à restaurer les souverainetés des États fondateurs, des souverainetés qui étaient complètement anéanties hein, en raison des dégâts causés par la Seconde Guerre mondiale. La restauration de ces souverainetés est donc, a donc été organisée par l'intégration commerciale d'abord, c'est-à-dire la réalisation d'un espace commercial, une union douanière d'abord, un marché intérieur ensuite, une union économique et monétaire. Et la spécificité de cette intégration, je l'évoquais tout à l'heure déjà, c'est de ne pas avoir pensé un espace de simple union douanière ou simple marché, mais que ce marché intérieur implique pour son développement, la prise en considération d'exigences liées au progrès social, au développement durable, à l'égalité entre les hommes et les femmes, à la cohésion sociale. Donc il y a un modèle hein, d'intégration qui repose sur des libertés considérées comme fondamentales, les libertés de circulation, hein, et cette idée, d'ailleurs en relisant certains historiens, on voit que l'idée de circulation, de liberté de circulation était très ancrée hein, dans la formation de l'idéologie libérale bien avant le XXe siècle. Donc la construction européenne choisit, fait le choix de l'intégration, d'une intégration d'abord, on dit souvent économique, mais avant tout commerciale, puis économique et sociale, ancrée dans un système de marché, ancrée également, je ne le développerai pas ici, mais vous le savez, dans un cadre démocratique supranational. Enfin, et ce sera le dernier point de mon introduction, enfin, avant de répondre à l'épineuse question des libéralismes dans les relations UE-Afrique, je souhaite soulever d'emblée un angle mort de ma contribution, de mon intervention. Du moins, je souhaite clarifier le point de vue que j'adopte pour mon intervention. Alors, c'est une contribution qu'on pourrait dire recentrée, puisque je m'intéresse aux relations UE-Afrique à la lumière du droit européen de la coopération et cette intervention ne propose pas, et je le regrette et je peux le regretter, mais pour partie ce serait vraiment au-delà de mes compétences, ne propose pas le point de vue des États africains sur cet échange de coopération. Alors c'est un regret bien sûr, mais il est important de préciser en introduction que cette approche africaniste existe et qu'elle offre une vision critique du libéralisme, des libéralismes pratiqués par les institutions européennes dans ce cadre de coopération. En témoigne la vitalité des études africaines, hein, la revue politique africaine fête ses 40 ans, je crois 1980, même si son apport est parfois contesté. Je le disais dans un article là tout à l'heure encore. En témoignent, par exemple, les ateliers de la pensée organisés par Féouinsa en 2016 hein, et qui s'intéressent à l'esprit critique, en tout cas à relayer, à mettre en valeur le renouveau de la pensée critique telle qu'elle peut être exprimée par la diaspora africaine. En témoignent également des projets alternatifs tels que le plaidoyer de Sheikh Gaye, co-auteur d'un rapport alternatif sur l'Afrique, et qui place au cœur de ce rapport, et on va le voir que ces notions sont au cœur des notions libéralisme, place au cœur de ce rapport comment repenser le développement et comment repenser ce développement en l'articulant à la souveraineté populaire. Il y aurait beaucoup à dire encore sur ces différents mouvements. Je citerai peut-être pour finir également Carlos López, hein, économiste, comme Féouinsa, qui est aussi un économiste, et qui, par sa vision, j'en reparlerai, invite à repenser le développement selon une vision qu'il estime être optimiste. Alors oui, des projets de recherche sont nécessaires, des contributions, des collaborations, et j'espère y participer et y contribuer de là où je suis, en tout cas aujourd'hui, à ce. Alors, quelles sont les formes de libéralisme consacrées par le droit européen de la coopération ? Nous allons voir ensemble qu'une fois ces précautions prises, hein, que ces expressions du libéralisme sont ambivalentes. Hein. Alors, il ne suffit pas de dire qu'elles sont ambivalentes, il suffit de voir en réalité comment est-ce qu'elles vont évoluer hein, en s'appuyant tantôt sur des formes plus politiques ou économiques de ce libéralisme, du libéralisme dans le cadre de ces relations. Et ce qui nous intéresse ici, c'est d'articuler libéralisme économique et liberté individuelle, libéralisme plus politique. Alors, dans un premier temps, je vais m'intéresser à ces ambivalences en mettant l'accent d'abord sur le libéralisme économique, ensuite plutôt sur le libéralisme politique. Concernant le libéralisme économique, les ambivalences de ce libéralisme économique dans les relations UE-Afrique, il faut préciser tout d'abord que c'est un libéralisme économique qui a été contrarié, et puis il a été imposé, et enfin il a été accéléré, et peut-être même rénové. Un libéralisme contrarié tout d'abord parce que lors de la création de la Communauté économique européenne en 1957, le droit communautaire s'inscrit dans un contexte politique contradictoire pour les libertés et pour le libéralisme. La construction européenne, je l'ai dit, est fondée sur la consécration de libertés commerciales aux fins de restauration des souverainetés des États membres. Et plusieurs de ces États, membres et fondateurs de la Communauté économique européenne, la France, l'Italie, la Belgique, sont des États qui ont des colonies ou exercent des dominations sous forme de protectorat avec plusieurs et de nombreux pays africains. Donc plusieurs de ces États exercent des liens de domination, hein, des liens qui sont structurés différemment, mais des liens de domination sur plusieurs pays africains et ultramarins. Alors ces pays africains, ces liens de domination, ils ont été intégrés, si j'ose dire, pour ne pas trop abuser de l'expression, cet héritage colonial a été reconnu dans le cadre du traité instituant la Communauté économique européenne et notamment à travers le statut des pays et territoires d'outre-mer. On pourrait encore aujourd'hui, mais c'est assez différent, dans le cadre du RUP, qui est un statut plus récent et pas tout à fait comparable. En tout cas, le droit européen consacre cet héritage colonial en reconnaissant et en consacrant ce statut des pays et territoires d'outre-mer. Alors, ce statut va bénéficier hein, jusqu'à leur indépendance dans les années 60, hein, au Rwanda, Burundi, à la Somalie, à la Nouvelle-Guinée néerlandaise, aux colonies belges du Congo, pardon. Et ce statut existe encore aujourd'hui, hein, il existe et il bénéficie de façon beaucoup plus restreinte, évidemment, à la Nouvelle-Calédonie ou à la Polynésie française. Les mouvements d'indépendance vont donner lieu donc à la signature d'un nouveau cadre permettant d'embrasser cette coopération et ces relations privilégiées, on va le voir, et c'est ce qui donnera naissance à la Convention de Yaoundé et aux conventions de Lomé et de Cotonou qui vont les suivre. Cet héritage colonial, il va prendre forme également par la volonté de la France en particulier d'introduire une politique de développement dans le cadre de la communauté économique européenne. Et cette politique de développement, elle avait suscité un certain nombre de réticences de la part des autres pays fondateurs qui voyaient là la possibilité pour la France de s'octroyer une politique au profit de ses seuls ou principaux intérêts. Il est vrai que l'instauration de cette politique européenne de développement a longtemps été décriée. Il y a de très beaux ouvrages sur la question, notamment de Gérard Bossuat, comme la greffe, voilà le mot que je cherchais, de la France-Afrique au sein même des institutions de la communauté économique européenne. Et d'ailleurs, le financement de cette politique de développement jusqu'au plus récent cadre financier pluriannuel, ce financement est consacré hors budget de l'Union européenne, ce qui va servir aussi ce qui va permettre de justifier l'action des États membres en parallèle de l'action européenne, comme le consacre d'ailleurs l'article 4, paragraphe 4 du TUE sur la compétence partagée spécifique en matière de développement. Cette politique de développement, elle a été renouvelée avec l'arrivée du Royaume-Uni et le Royaume-Uni qui devait réorganiser aussi ses relations avec le Commonwealth en 1973. Donc la politique de développement de l'Union, qui est une politique importante puisque l'Union européenne est un des premiers bailleurs de fonds verts en matière d'aide au développement vers les pays africains en particulier. Cette politique de développement, elle est nimbée d'un héritage colonial qui n'est pas très clairement pas favorable, en tout cas qui ne traduit pas un libéralisme dans le cadre des relations Communauté économique européenne et Afrique. Elle s'en démarque néanmoins. Alors pourquoi est-ce qu'elle s'en démarque? Tout d'abord, et pourquoi est-ce que le libéralisme économique qui semble articuler ces relations, alors dans le cadre des relations commerciales entre UE et Afrique, pourquoi est-ce que ce libéralisme est contrarié comme je vous l'avais annoncé? Tout d'abord parce que le droit communautaire va chercher à maintenir des relations les États membres de la communauté économique européenne, à travers les droits communautaires, vont chercher à maintenir des relations privilégiées avec les pays africains. Et cet objectif va se traduire par l'octroi au niveau de la communauté européenne de régimes préférentiels, c'est-à-dire d'octroi davantage, alors sous une forme différente, de régimes préférentiels non réciproques. Donc, des avantages financiers, alors, les plus connus sont le STABEX et le SISMIN, ou encore des systèmes, ce qu'on appelle les SPG, les systèmes de préférence généralisée, qui sont décidés de façon unilatérale par l'adoption d'un règlement communautaire et sur la base de la compétence commerciale de la communauté européenne. Or, ces dérogations, c'est-à-dire cet octroi d'avantages non réciproques, ces régimes préférentiels, sont des dérogations au droit international du commerce, tel que celui-ci a été instauré dans le cadre du GATT en 1947, qui prévoyait une exigence de réciprocité des avantages commerciaux entre les différents États membres de cette organisation ou signataires de cet accord. Donc, et cette absence de réciprocité du SPG a été aussi particulièrement vilipendée, en tout cas contestée par la CNUSED en 1968, avec ce slogan, pourrait-on dire, « Trade, not aid », qui montrait l'importance d'instaurer véritablement la libéralisation des échanges plutôt que l'aide au développement dans le cadre des relations entre les États africains et la communauté européenne, favorisant, comme le droit international du commerce le prévoit, l'insertion de ces pays africains dans la libéralisation plus générale des échanges au niveau mondial. Alors, cette dérogation, elle a donné lieu à une joute très connue entre arguments portés par la communauté économique européenne, défendus devant l'organe de règlement des différends en 1993. La communauté économique européenne n'a pu obtenir qu'un prolongement de sa dérogation, mais a dû céder devant les arguments dans cette fameuse affaire des bananes, qu'il n'est pas utile ici de rappeler. Donc ce libéralisme est contraint, ce libéralisme plutôt économique, contraint dans la mesure où, alors même que les pays africains se trouvent encore pour partie dans des relations de domination et petit à petit dans des relations d'indépendance, mais toutes nouvelles, dans le cadre des relations avec la communauté économique européenne, eh bien, la liberté commerciale ne leur est pas d'emblée accordée. Elle le sera, elle sera imposée par l'organe de règlement des différends en 1993. Et c'est donc dans ce contexte contraint que les règles du libre-échangisme vont être étendues aux relations avec l'Afrique. Et c'est dans ce contexte que, alors je vous ai passé quelques étapes, mais que vont être négociés les fameux accords de Cotonou. Ces fameux accords de Cotonou, ils marquent une rupture, une mutation même des relations entre la communauté européenne et les pays africains, dits pays ACP. Alors, ces accords, ils vont prôner une stratégie globale et intégrée du développement, intégrée, c'est-à-dire que les relations économiques, commerciales, c'est-à-dire que les relations UE-Afrique s'articulent autour de trois blocs, les relations commerciales, la coopération au développement et le dialogue politique. C'est une rupture, cet accord de Cotonou, et qui apparemment reste dans une continuité puisqu'on parle aujourd'hui, en avril 2021, du post-Cotonou. C'est une rupture parce qu'il va instaurer un partenariat entre les différents partenaires. Alors d'une part, la communauté européenne et d'autre part, le groupe des pays dits ACP, à l'époque encore dans sa forme Georgetown 1975, donc sous forme d'association. Alors, un partenariat qui repose sur un certain nombre de principes, qui pose le principe d'égalité des partenaires, de participation des acteurs au développement, d'appropriation, l'idée que les aides allouées dans le cadre de la coopération au développement, par exemple, dû être appropriées par la société civile, que ce ne soit pas hors sol, dirions-nous, aujourd'hui. Et elle s'accompagne d'une forte conditionnalité politique sur laquelle je reviendrai. Donc, à première vue, les accords de Cotonou vont renforcer l'idée de la liberté-souveraineté, de la souveraineté-liberté, puisqu'elles vont positionner les pays africains en partenaires égaux à l'organisation européenne. Cette évolution, elle est soutenue par l'idée non plus de l'unilatéralité dans les relations, qui était marquée par les SPG dont on parlait tout à l'heure, mais de contractualité, une contractualité imparfaite, puisqu'il s'agit d'un partenariat et un accord cadre, et je préciserai cette différence tout à l'heure. L'accord de Cotonou va favoriser donc le libre-échange commercial entre ces deux zones, promouvoir un développement économique intégré. Alors intégré, ça veut dire en tenant compte d'autres objectifs que les seuls objectifs économiques et commerciaux, la paix, la sécurité, le développement durable, par exemple. Toutefois, cet accord, il a été bien sûr critiqué, puisque considérant que l'égalité des partenaires est postulée, mais qu'elle n'est pas réelle, que le principe de différenciation, c'est-à-dire l'idée que l'on tienne compte, qu'on réalise des liens sur mesure, en quelque sorte, en tout cas qu'on ne considère pas l'Afrique comme un bloc sans tenir compte de ses spécificités, eh bien, ce principe de différenciation est jugé insuffisant hein, dans le cadre de l'accord. Et on verra tout à l'heure également que la question de l'efficacité de l'aide allouée dans le cadre de cet accord cadre est discutée. Post-Cotonou, l'accord post-Cotonou va en quelque sorte accélérer hein, cette démarche, du moins elle ne la remet pas en cause. Alors elle accélère, pourquoi ? Parce qu'elle ne remet pas en cause ce qui était déjà en germe dans l'accord de Cotonou, mais qui a commencé à se faire véritablement à partir de 2008 hein, pour les premiers et de façon plus parfaite là depuis 2018. Puisque cet accord de Cotonou va réintroduire la bilatéralisation des échanges entre les pays ACP et les institutions européennes. Pourquoi une réintroduction de la logique de la bilatéralisation des échanges, puisque l'accord de Cotonou prévoit la signature d'accords de partenariat économique. Alors le terme n'est plus nouveau aujourd'hui. Et ces accords de partenariat économique, ils favorisent donc l'ouverture hein, de l'accès des exportations vers l'Union européenne, un cadre réglementaire pour les investissements et autres mesures précisant les relations commerciales et d'investissement avec la communauté européenne. L'accord post-Cotonou ne remet pas en cause le primat de ce libre-échangisme et de libéralisme économique plus généralement dans les relations UE-Afrique. Hein. On voit même, il faudrait alors une analyse plus fine, que dès le préambule, son 11e alinéa, il s'agit même hein, de rappeler que l'importance des transformations économiques structurelles hein, qui sont nécessaires pour la réalisation d'une croissance économique qui se veut durable, et inclusive. Alors, le libéralisme économique, vous voyez, il a plusieurs temps, plusieurs évolutions, et il se traduit sans grande synchronisation, toujours, avec une certaine idée d'un libéralisme qui consacrerait les libertés individuelles et politiques le libéralisme politique au sens du droit international, tel que nous l'avons vu tout à l'heure. Qu'en est-il alors du libéralisme politique ? Est-ce que, si l'on se concentre désormais sur les expressions du libéralisme politique, est-ce qu'elles existent hein, dans le cadre des relations UE-Afrique et surtout, quelles formes prennent-elles dans le cadre de ces relations ? Dans ce cas, je dirais que là aussi, les relations UE-Afrique traduisent hein, des ambivalences hein, de ce libéralisme. De temps, j'irai un petit peu plus vite, parce que je vois que le temps s'écoule, pardon. Le libéralisme politique en Afrique est promu dans le cadre, et posé en tout cas en condition d'abord aux relations UE-Afrique. Et je vais préciser comment s'est réalisée cette condition hein, dans le cadre des relations UE-Afrique. Et puis je dirais surtout qu'aujourd'hui, ce libéralisme il est menacé par les relations UE-Afrique et en particulier, non pas seulement en Afrique, mais aussi en Europe. Alors tout d'abord, c'est un libéralisme politique que j'oppose à économique, qu'il faudra discuter tout à l'heure, qui est posé en condition aux relations UE-Afrique. Alors cette condition, on l'observe de différentes façons, c'est ce qu'on appelle communément la conditionnalité politique, la conditionnalité démocratique, qui est posée dans le cadre des accords-cadres de coopération entre l'UE et les pays ACP. Ce sont ces fameuses clauses droits de l'homme qui sont apparues comme devant être nécessaires à la coopération. Alors, ces clauses, cette conditionnalité politique, elle ne date pas hein, des accords de Cotonou, elle était déjà présente en réalité dans le cadre de SPG, des systèmes de préférence généralisés, mais sous une forme, en tout cas, juridique un peu différente. Cette conditionnalité démocratique ou politique, elle est renforcée par l'idée que les droits de l'homme seraient même facteurs de développement, c'est-à-dire que la protection des droits de l'homme, la promotion des principes démocratiques seraient un facteur du développement. Et d'ailleurs, l'accord de Cotonou prévoit, à son article 96, un mécanisme de sanction en cas de violation, puisque dans cet accord, et c'est bien connu, la clause droits de l'homme est considérée comme un élément essentiel de l'accord, justifiant donc la suspension des relations en cas de non-respect de cette clause. Alors l'insertion de cette clause à Cotonou en 2000, elle doit être lue bien sûr en parallèle avec le renforcement ce que j'ai appelé l'intégration démocratique au sein de l'Union européenne, c'est-à-dire avec l'évolution justement de la protection des droits fondamentaux, des conditions politiques et démocratiques attachées au statut d'État membre de l'Union européenne. Donc elle se lie avec une progression aussi de cette question-là au niveau de l'Union. La conditionnalité politique telle qu'elle est implantée, insérée dans le cadre de ces relations, elle est néanmoins accompagnée, voire supplantée, par une conditionnalité de la performance des aides allouées. On se situe ici au niveau des aides qui, comme je vous le disais, ont été critiquées. Et là, très rapidement, est apparue l'idée de l'inefficacité des aides. Alors, cet argument de l'inefficacité de l'aide au développement est un argument ancien qui date des années 70-80, qui a été porté par des économistes et qui estime qu'il n'y avait pas de corrélation. Alors, comment est formulé cet argument critique ? Il n'y aurait pas de corrélation entre la croissance économique et l'aide au développement. Même, il développerait l'idée qu'il y aurait même des effets négatifs de l'aide au développement, un excès d'aide conduisant à une augmentation des taux de change. Cet argument de l'efficacité qui soumet les bénéficiaires de l'aide au développement, et donc les pays africains, à des exigences de performance, cet argument-là et cette exigence-là, cette conditionnalité-là, elle répond à un cadre international, au cadre fixé à Busan en 2011. Elle se retrouve dans l'agenda des Nations Unies en 2015 et elle vise en réalité à renforcer la transparence, la responsabilisation réciproque des États et des bénéficiaires de l'aide, promouvant la bonne gouvernance fiscale, les mesures de protection sociale, tout un arsenal de soft law visant donc à faire évoluer par cette conditionnalité de la performance et non plus seulement la conditionnalité démocratique, les conditions de mise en œuvre, d'éligibilité et de mise en œuvre des fonds et de l'aide allouée aux pays africains. L'accord post-Cotonou ne remet pas en cause cet argument de l'efficacité de l'aide. On retrouve dans l'avant-dernier ou le dernier la référence au programme d'Addis Abeba se retrouve dans la fin du préambule de cet accord dit post-Cotonou. Donc, oui, dans le cadre des relations Union-Afrique, une certaine idée du libéralisme politique, c'est-à-dire plutôt l'idée que dans les relations internationales, celles-ci puissent être fondées sur la protection des droits de l'homme, sans violer la protection des droits de l'homme, en promouvant les principes démocratiques, la politique d'action extérieure dirigée vers les pays africains avait posé en condition le respect de ces clauses droits de l'homme telles que nous venons de le présenter. Alors bien sûr, je n'ai pas repris cela, mais ces clauses ont fait l'objet de nombreuses critiques, y voyant une forme d'ingérence à nouveau des États européens dans la gestion, l'organisation des pays africains. Ce qui me semble plus grave aujourd'hui, c'est ce mouvement qui montre comment est-ce que cette idée, cette expression du libéralisme politique dans le cadre des relations UE-Afrique est aujourd'hui menacée. Et elle est aujourd'hui menacée à plusieurs égards. Alors deux exemples mériteraient d'être présentée. Je n'en prendrai qu'un vu le temps qui passe. J'avais prévu de parler de la conditionnalité environnementale, hein, qui est un exemple plus optimiste. Je parlerai donc de la conditionnalité migratoire, qui est un exemple plus pessimiste de l'évolution du libéralisme dans les relations UE-Afrique. Alors, la conditionnalité migratoire, c'est quoi? C'est l'idée que, et c'était déjà le cas dans l'accord de Cotonou, que les questions migratoires puissent être ancrées, hein, dans l'accord, dans les relations UE-Afrique, c'est-à-dire les conditions relatives à l'entrée, au séjour et au retour, hein, pour utiliser les termes de l'Union européenne, qui ne sont pas neutres, hein, au retour des ressortissants tiers qui ont pour pays d'origine ou de transit ces pays africains en particulier. Cette conditionnalité migratoire, alors je donnerai plus de détails peut-être dans les questions si nécessaire, mais en tout cas, elle va favoriser, elle va être favorisée par l'idée que, par une approche globale de l'aide au développement, une approche globale de l'aide au développement qui est promue par les Nations Unies, promue par l'OCDE et reprise par les institutions européennes, et qui envisage que la gestion migratoire et la question migratoire est une condition au développement des États tiers, en particulier ici des États africains. Et cette approche globale qui va être promue au niveau international et européen, elle va en réalité conduire, je vais un peu vite là, mais à établir un lien entre migration et développement et surtout à favoriser l'octroi d'aides qui en principe sont des aides au développement et qui vont être mobilisées pour la gestion des frontières extérieures de l'Union au sein même des pays africains. La gestion des flux migratoires et donc cette aide au développement va donc être détournée en quelque sorte, mais pas formellement, hein, puisque l'approche globale, hein, du développement le permet, au profit des intérêts de l'Union et du contrôle de ces flux migratoires par les États africains, en particulier par ceux engagés dans différents partenariats qui se sont spécifiquement développés avec certains États africains, Rabat, Khartoum, etc. Alors pourquoi est-ce que ça pose un problème ? Alors ça pose un problème déjà en ce qu'on voit, comment cette politique de développement qui, alors on va peut-être en reparler dans les questions, qui est une certaine idée, hein, qui est une notion, hein, qui est critiquée aujourd'hui, hein, on connaît les travaux de Gérard Rist en particulier, mais cette, et, ou qui cherche à être rénovée, on l'a vu, hein, dans les arguments alternatifs et politiques ou économistes portés par exemple par Carlos Lopez, et qui disait, Carlos Lopez, si peut-être je peux vous citer maintenant, qui disait finalement les États africains avaient le choix entre la démocratie ou le développement. Hein, c'est-à-dire que les États autoritaires, selon son observation, étaient plus susceptibles de porter des politiques de développement, ce que ne favorisait pas, selon son observation toujours, les pays inscrits dans un développement démocratique. Alors pourquoi ça pose problème ? Ça pose problème parce que cette politique de gestion externalisée des frontières, avec l'assistance des États africains, posée selon des rapports de responsabilité partagée de ces États africains, grâce au financement qui, en principe, doit être voué au développement durable et à cette nouvelle notion de développement, eh bien, cette approche sécuritaire de l'aide au développement s'accompagne de violations, en réalité, massives, en fait, des droits humains, des violations des ressortissants dits tiers pour le droit de l'Union, des ressortissants africains, alors là, je pourrais vous donner des exemples tout à l'heure, qui, en raison de la collaboration plus ou moins active de certains pays, je pense au Niger par exemple, vont, dans leur mobilité en Afrique, être saisis, hein, par ces mécanismes de contrôle et être saisis en leur qualité d'ennemi. C'est une provocation que je suis ici, en qualité d'ennemi, mais que je dois expliquer, bien sûr, pour l'espace de protection qui est ce que l'on a par ailleurs appelé l'Europe forteresse. Donc cette politique migratoire est devenue une politique de sécurité au nom du développement durable. Faire rapide. Alors, c'est un problème parce que cela s'accompagne des violations des droits humains et des droits qui sont reconnus par le droit international pour ces personnes qui migrent. Et puis, ça s'accompagne aussi d'une certaine déseuropéanisation des standards, hein, puisque ces personnes ressortissantes qui se situent sur les territoires africains et qui souhaitent accéder aux territoires européens ne verront pas, malgré les formations, malgré tout l'arsenal institutionnel et financier organisé notamment par Frontex, ne bénéficieront pas des mêmes conditions d'examen de leur candidature, d'accès et d'observation et de respect des droits qui leur sont dus, en principe au regard du droit international, des droits de l'homme. Je vois le temps qui file et donc je terminerai ici peut-être en posant cette question, qu'est-ce qu'aurait dû être cet accord post-Cotonou, ou que faudrait-il rénover pour favoriser une évolution plus positive du libéralisme politique dans le cadre de ces partenariats. Eh bien, peut-être qu'on va en discuter, parce que j'ai peur du temps qui passe et je sais. Il y avait deux idées hein, principales. C'est l'idée, évidemment, que ces partenaires n'acceptent pas encore tout à fait au jus contra indi, hein, qui est une des conditions hein, de la reconnaissance des sujets en droit international, malgré les efforts hein, constitués par le cadre de l'accord post-Cotonou. Au niveau des individus, on voit, je viens de le dire, hein, que ces ressortissants africains, lorsqu'ils sont confrontés aux politiques extérieures et externalisées de l'Union européenne, ne se retrouvent pas dans une situation qui réponde aux exigences de démocratie libérale, internationale, celle qui devrait être organisée dans le cadre de ces coopérations. Mais je ne voudrais pas paraître purement pessimiste, ce n'est pas mon cas. On pourrait aussi envisager un certain nombre de mécanismes de contrôle de ces obligations. Ce serait un merveilleux accord si le contrôle des obligations tenues dans cet accord pouvait être juridictionnalisé et n'en demeurait pas un espace politique. Voilà pour l'instant, merci pour votre écoute.
Merci beaucoup, Karine, pour cette... Pour ce séminaire qui aborde un point qui n'avait pas du tout été abordé jusque-là, c'était vraiment un angle mort de nos travaux et donc ça enrichit notre pensée. Et alors, ce qui est très intéressant quand on réfléchit aux anciens séminaires qui ont été faits, c'est que alors qu'on aurait pu dire qu'on était plus ou moins sur la même thématique quand le professeur Pierre-Yves Mongel a fait sa présentation sur les rapports entre toujours hein, sur le même champ, libéralisme. Dans les rapports entre l'Union européenne et le Japon, on voit bien que ce n'est pas du tout la même manière d'aborder le champ. Et donc, ça donne encore plus d'intérêt à cette présentation. Je ne vais pas monopoliser la parole. Moi, j'aurais plein de questions, mais si vous en avez qui êtes dans le public, je vous en prie, n'hésitez pas à lever la main. C'est le moment. Karine, tu leur as donné trop à réfléchir. Alors, moi, je me lance. Allez. J'ai trouvé très intéressant cette présentation sur l'ambivalence du libéralisme économique. Ah, mais je vois qu'on a une question. Donc, en fait, on va donner la priorité au public. Oui, vous qui levez la main, allez-y, je vous en prie. Normalement, vous pouvez parler. Est-ce que vous essayez? Ça ne marche pas? Allez-y. Oh, ça marche pas. Monsieur ou Madame Baungu? J'entends rien. Quelqu'un l'entend?
Non, je n'entends pas non plus.
Non, t'entends pas non plus. Ah, mais je ne sais pas du tout pourquoi il ne peut pas parler. Posez votre question, peut-être par écrit dans le fil de conversation. Bon, en attendant, j'y vais. Donc, je disais que j'avais trouvé que c'était particulièrement intéressant le tout début où tu as posé cette question sur l'ambivalence finalement du libéralisme économique dont tu as développé qu'il était contrarié, etc. C'est quelque chose qu'on n'avait pas tant l'habitude de voir. Mais je voudrais surtout que tu puisses développer ce que tu n'as pas pu faire sur la conditionnalité environnementale, qui est un des deux champs que tu aurais souhaité présenter. C'est peut-être l'occasion. Si. Donc, conditionnalité, on y revient, hein, conditionnalité dont tu as expliqué que ça accompagne pleinement l'accord de Cotonou. Et donc, manifestement, il y a des clauses liées au respect de l'environnement, si je comprends bien, a priori, le contenu. Et tu semblais dire que c'était plus favorable au...
Alors, là aussi, c'est ambigu.
Tout est relatif.
C'est ambigu parce que... Alors, je ne suis pas une spécialiste de la protection de l'environnement et mes propos mériteront sûrement d'être approfondis. Ce que j'ai vérifié, c'est que... Ce qui est pessimiste, hein, ce qui n'est pas positif en ce sens, c'est que la question des exigences démocratiques, la protection des libertés, des droits de l'homme, du principe démocratique et de la bonne gouvernance telle qu'elle est formulée dans l'article 9 de l'accord post-Cotonou, d'égalité entre hommes et femmes, ces exigences-là sont... des objectifs de l'accord cadre. Ils sont non seulement des objectifs de l'accord cadre, c'est l'article 1, paragraphe 3 de l'accord post-Cotonou, ce sont aussi des exigences transversales, hein, selon l'article 7, paragraphe 1 de cet accord, je passe d'autres dispositions, mais surtout selon l'article 9, hein, dédié à ces questions, est clairement affirmé, et là il y a tout un champ intéressant à développer, à reprendre sur l'interdépendance, la question de l'interdépendance des droits et libertés, donc qu'ils soient économiques ou politiques, hein, l'idée, la reconnaissance du droit des peuples autochtones, etc. Bref, ce que je voulais surtout dire, donc il y a plein de choses intéressantes à dire là-dessus, mais ce qui est intéressant, c'est que c'est le paragraphe 7 qui le précise, l'article 9 de l'accord post-Cotonou, c'est que ces exigences en matière de droits de l'homme, démocratie, état de droit, sont des éléments essentiels de l'accord. Hein. C'était déjà le cas dans l'accord de Cotonou, et qui dit élément essentiel, qui dit selon le droit des traités, la justification d'une suspension de l'application de l'accord en cas de non-respect de ces exigences. Si je regarde maintenant l'accord post-Cotonou et la question de l'urgence de lutte contre le réchauffement climatique et plus généralement la question de la protection de l'environnement. Eh bien, d'emblée, je dois dire, alors je suis un peu prudente parce que j'avoue que je n'ai pas tout approfondi, mais il ne s'agit pas, en tout cas ça c'est sûr, d'un élément essentiel de l'accord. Hein. Donc la consécration il n'y a pas de clause environnementale qui constitue un élément essentiel de l'accord, comme c'est le cas pour les droits de l'homme, le principe démocratique et l'état de droit tel qu'on l'a vu tout à l'heure. Toutefois, les dispositions que j'ai pu lire rapidement montrent que il y a plusieurs, et ça fait beaucoup penser à ce que fait le droit de l'Union européenne déjà, hein, à vrai dire, hein. Il y a plusieurs dispositions qui rappellent d'abord, ça c'est dans le préambule, que cette conditionnalité, enfin que la protection de l'environnement, la lutte contre le réchauffement climatique, et que les principes qui ont été adoptés dans les principes de développement durable, de l'agenda 2030, l'accord de Paris sur le climat, sont des principes qui guident l'application du partenariat, hein, qui guide l'application du partenariat. La lutte contre le réchauffement climatique à l'article 1, paragraphe 3A, est un objectif de l'accord, donc est bien reconnu comme étant un objectif de l'accord. Et l'article 7, hein, qui prévoit ces clauses transversales. Alors, ce n'est pas des clauses transversales comme on les connaît à l'article 9 du traité sur l'Union européenne, TFUE plutôt, du TFUE, hein, c'est-à-dire des exigences sociales ou environnementales qui irriguent en quelque sorte. On parle là de thèmes. Alors, entre thèmes transversaux et exigences transversales, il y a quand même une petite différence. Qui sera affinée dans l'application de l'accord. Et donc, c'est bien un thème transversal qui doit favoriser en particulier le renforcement de la résilience des peuples, et cette question encore, hein, de cette idée de responsabilité, alors ça aussi, bon, faut y revenir, hein, des populations dans la lutte contre, en particulier, le changement climatique. D'autres dispositions le consacrent, et alors il y a l'article 30, dans ses liens avec la sécurité alimentaire, il y a notamment l'article 49, hein, de l'accord post-Cotonou qui va établir donc un lien entre commerce et développement durable, et une relation d'interdépendance, hein, entre les relations de commerce et de développement durable, et une exigence d'un niveau élevé de la protection, hein, de l'environnement dans tous les aspects des relations commerciales. Donc c'est pour ça que je dis que c'est pas, la conditionnalité environnementale n'a pas le même statut que la conditionnalité démocratique des droits de l'homme, mais elle n'en demeure pas moins clairement affirmée, elle est intégrée, hein, dans la conception que l'Union européenne et les pays ACP, enfin l'organisation des États ACP, entend développer dans le cadre de leur relation. C'est pas nouveau, c'est pas complètement nouveau pour ces relations euro-africaine, mais quand même on peut noter, je crois que ça n'y était pas, le paragraphe 2 de l'article 49, hein, toujours, qu'il serait inapproprié, alors c'est en anglais, hein, je ne sais pas comment c'est traduit en français, ça aussi, d'encourager le commerce et le développement en baissant le niveau de protection des droits de l'environnement et des droits sociaux. Donc il y a peut-être un effet cliqué qui pourrait en tout cas être utilisé comme argument dans le cadre de ces relations, et puis des exigences de cohérence, des exigences liées au, alors on parlait de human rights based approach, maintenant on parle aussi de ecosystem based approach.
Après, voilà. Ça posera la question de la question de la juridicité, puis de l'effectivité du il serait comment tu disais préférable dans ces inapproprié, il serait inapproprié, enfin l'emploi du conditionnel plus le inapproprié. Bon. On a l'un de nos invités qui a pu poser sa question par écrit, monsieur ou madame Maungu, qu'on n'entendait pas tout à l'heure. Alors, je te la pose, il y en a deux. Pensez-vous que les APE ont encore la chance d'aboutir au regard des blocages actuels relatifs à leur ratification par les États ACP? Et ensuite, deuxième question, mais qui va avec, j'imagine, quel serait le lien entre les APE futurs et l'accord post-Cotonou?
Alors, sur ce point, est-ce qu'ils ont une chance d'aboutir? Bon, c'est un processus qui est assez lent. J'avais ouvert, je crois, pour savoir l'état des négociations aujourd'hui, donc elles ne sont pas abouties, c'est vrai. Elles ont souvent, alors ça, je ne crois pas l'avoir dit, été marquées par pardon, il faut que j'enlève les textos, sinon ça me perturbe. Elles ont été marquées par une bilatéralisation, c'est-à-dire une forme de désolidarisation. C'est pas le terme idéal, mais en tout cas de mise en compétition de certains pays qui appartenaient à des blocs, qui pouvaient être considérés comme des blocs, certains États ayant une position privilégiée, je pense à l'Afrique du Sud, au Cameroun, je citais la Côte d'Ivoire tout à l'heure, qui se sont précipités, hein, pour conclure des accords. Il a fallu ensuite réintégrer donc ces accords de partenariat dans le cadre des organisations, dans un cadre régional. Mais quelle chance, je n'en sais rien, probable, fort probable, même si, là encore, ce qui est certain, c'est que la critique qui veut rappeler que ces pays ne sont pas en position, sont plus pris, moins pris en position de partenaire commercial, malgré l'évolution aussi. Parce qu'il y a toute une question sur le droit d'investissement, le droit des affaires africains, en Afrique, qui est très présent et très important. Mais il n'empêche que dans la relation avec l'Union européenne, cette relation est déséquilibrée dès lors qu'ils sont... c'est pas très nuancé ce que je dis, mais on peut quand même le dire ici, dès lors qu'ils sont plutôt pris en leur considération de bénéficiaires des fonds. Alors, les APE tentent à faire évoluer cette situation en les insérant, les intégrant pleinement dans la libéralisation des échanges, sans certains États bénéficiant encore de dispositions, vous pouvez les retrouver sur le site de l'Union, de dispositions dérogatoires. Et c'est là tout l'enjeu. Et la deuxième partie, c'était quoi? Ah oui, qu'est-ce qu'ils deviendront? Ils sont intégrés, oui, il n'y a pas de difficulté.
Quel est le lien? Quel serait le lien entre les APE futurs et l'accord post-Cotonou? C'est ça la deuxième question.
Ils vont être. Alors, les APE futurs et l'accord post-Cotonou, ils vont être pris, élus en compatibilité avec l'accord post-Cotonou. Je pense qu'il n'y a pas de difficulté sur ça.
Il n'y a pas de difficulté là-dessus. Une autre question. Non, la personne qui a posé la question te remercie. En t'écoutant, je me demandais si finalement. Pour en revenir à la clause droits de l'homme que tu avais évoquée tout à l'heure, qui avait été beaucoup dénoncée puisque finalement c'était quelque part une ingérence, ça a été considéré en tout cas comme étant une ingérence dans les droits des pays africains à ce taux déterminé finalement et à déterminer leur régime politique. Je me demandais dans quelle mesure est-ce que ça s'articulait avec un élément que tu as évoqué par ailleurs, sur le fait que finalement, un auteur, je ne me rappelle plus de son nom et je m'en excuse, avait indiqué que finalement, les États en question avaient eu le choix entre développement économique, enfin droit au développement, pardon, ou développement démocratique. Alors, c'est d'autant plus étrange, j'ai envie de dire, comme alternative que, en France, tout du moins, libéralisme et politique et libéralisme économique, il a été souvent conçu comme allant de pair, même si on sait très bien que la réalité est bien plus ambivalente. Mais en tout cas, le libéralisme a été conçu comme étant deux facettes, hein, j'ai envie de dire, qui se nourrissaient l'une l'autre. Et là, on voit qu'on est finalement dans une autre dynamique. Et donc, je me demandais comment ça avait pu s'articuler, se conjuguer peut-être, je ne sais pas quel est le bon terme, avec cette fameuse clause des droits de l'homme dont on sait que l'Union européenne y est extrêmement attachée quand elle négocie avec des États tiers, alors même que on a eu d'autres séminaires, et je pense notamment au séminaire qui a été animé par Juliette Grange, qui est professeure de philosophie politique, qui expliquait justement que finalement, au sein même de l'Union européenne, certains États suivent une trajectoire qui ne respecte pas les droits de l'homme, quoi. Elle pensait notamment au cas de la Hongrie quand elle avait fait son exposé. Donc, je ne sais pas si ma question est très claire là-dessus, mais voilà.
Il y a une question importante qui permet de mesurer justement le libéralisme au regard de l'histoire du droit international, qui est mon prisme dans cette intervention, et qui montre que l'autorité que la communauté européenne, puis l'Union européenne, se reconnaît de pouvoir imposer des conditions de libéralisation des échanges, en tout cas des conditions de ses relations avec les pays africains, et ben c'est une autorité qui est d'autant plus contestée, enfin dont la légitimité est contestée dès lors que elle-même, hein, l'Union européenne aujourd'hui, c'était un peu le sens de mon dernier point, dès lors que l'Union européenne ne serait plus aussi n'agirait plus aussi parfaitement en
conformité
avec ses valeurs, ce qui est quand même une condition à son action extérieure. Hein. On le retrouve à l'article 21 du TU, mais aussi à l'article 8. Donc cette autorité à définir, d'abord unilatéralement, puis de façon contractuelle, les conditions des relations avec les pays africains, elle est contestée au regard de ces événements, c'est vrai. Quand j'évoquais tout à l'heure... Et elle est contestée, pardon, et pour finir, elle n'est pas complètement perçue comme rattrapée par l'idée de partenariat tel qu'il existe à Cotonou et même, quoi qu'il ait évolué, tel qu'il existe dans le cadre de l'accord post-Cotonou. Hein, c'est-à-dire que les pays africains ne sont pas perçus en raison de la contrainte économique qui peut s'exercer sur eux dans leur relation avec, mais pas seulement, c'est un prisme de voir ici, je l'entends bien, avec l'Union européenne, eh bien, ils ne sont pas reconnus comme bénéficiant de cette même autorité, hein, et donc dans une relation déséquilibrée. C'est, le champ entre démocratie et développement, c'était une expression de Carlos Lopez, qui est économiste, hein, et qui parle dans son ouvrage, je ne sais plus comment s'appelle l'ouvrage, je peux l'avoir pas loin, je ne sais plus, qui parle de dilemme de l'Afrique, hein, de dilemme de l'Afrique, posé entre un choix entre des démocraties libérales ouvertes, mais pour lesquelles les élites seraient plutôt néolibérales, et des États développementalistes, hein, c'est l'expression traduite de son ouvrage, qui eux seraient autoritaires. Et ce qui est très intéressant dans son ouvrage, c'est qu'il place ce dilemme en regrettant l'absence, hein, d'États d'État du développement. C'est-à-dire, comme on parle d'État de droit, hein, il y aurait un État, une forme de l'État qui favoriserait justement ce développement et une certaine développement qu'il développe par ailleurs, hein, dans son ouvrage. Et ce qui est intéressant, et c'est là où l'espace euro-africain peut à l'avenir être prometteur, même si nous ne sommes pas tout à fait, et elle trouve les bases de sa promesse dans ces accords, c'est que les relations de libre-échange telles qu'elles sont conçues entre ces deux espaces sont fondées sur une certaine conception du libre-échangisme commercial, certes, mais dans une perspective dite globale ou intégrée, c'est-à-dire considérant que le développement, alors ce n'est pas propre à l'Union européenne, est plutôt humain, social, et donnant une importance particulière donc aux conditions d'accès et à l'égalité d'opportunité d'accès des Africains aux services essentiels. On retrouve cela d'ailleurs dans l'accord post-Cotonou, à l'éducation, à la santé, etc. Donc, tout ce qui apparaît comme des éléments de soft law pour définir ce qu'est le développement et comprendre ce qu'est la dimension intégrée du libre-échange dans le cadre de ces relations euro-africaines se rapproche en réalité dans son concept, même s'il n'est pas égal, d'une certaine idée d'une intégration, d'un espace de protection qui ne serait pas cet espace de protection où seul les libertés commerciales seraient garanties. On ajoutera un gros bémol à cela, c'est que, évidemment, il faut alors étudier à la loupe comment le commerce tel qu'il est organisé entre ces deux zones favorise ou non, ou tient compte ou non en pratique de la promotion des systèmes de protection sociale, par exemple, comment... Et puisque en plus il y a une refonte Vous savez, le Fonds européen de développement désormais n'existe plus, hein, c'est-à-dire qu'il était hors budget et maintenant on a tout dans le cadre d'un seul instrument et de différentes, ce qu'on appelle facilités, hein, donc des instruments plus souples, flexibles, dits d'urgence comme EU Trust Fund for Africa, Emergency EU Trust Fund for Africa. Ce que je voulais dire, c'est comment, reste à voir comment cette aide, qui est quand même un gros pilier hein, de la relation euro-africaine, comment est-ce que cette aide est effectivement dirigée vers la promotion et de l'accès à ces services essentiels, par exemple. Et l'exemple des flux migratoires me permet d'être un peu pessimiste.
Il nous reste 2 minutes. Donc, s'il y a une dernière question, une dernière intervention, pardon, c'est le moment. Ah, il y en a une. Alors, je la lis. Les articles 96, 97 ou l'annexe 7 n'ayant quasiment jamais été activés malgré les très nombreuses situations où Dieu en a eu l'occasion, y compris par exemple lors des multiples crises post-électorales, comment les populations africaines peuvent-elles encore croire en la bonne foi de l'UE sur les questions de droits de l'homme, bonne gouvernance ou de démocratie? Surtout que dans le même temps, les volets économiques et migratoires sont, eux, bien activés. Ça rejoint, hein, Karine, ce que tu disais, je pense. N'est-ce pas un boulevard offert à d'autres acteurs tels que la Chine, la Turquie ou l'Inde qui, eux, ne font aucune promesse politique? Oui, alors, juste là-dessus, ce qui est assez intéressant, je me permets 2 minutes, c'est que, alors, je me demande, en plus, on parle depuis tout à l'heure de pays africains ou d'Afrique, mais en réalité, et c'est, on n'avait pas le temps peut-être de le faire là, il faudrait vraiment qu'on distingue selon la situation très, très spécifique de chacun des États. Parce que j'imagine qu'ils ne sont pas tous dans la même situation. Et puis, en termes de développement économique, effectivement, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que la Chine, notamment, a très, très, très fortement investi dans les pays. Alors, pour ce que j'en sais, en tout cas, mais j'imagine que d'autres sont concernés, les pays du Maghreb, notamment, ils ont fait énormément d'investissements financiers, en termes d'achat de bâtiments, etc., etc., etc. Ils sont vraiment en train de devenir un des partenaires privilégiés, donc supplantent l'Union. Mais pardon, je te laisse répondre, Karine. On a 1 minute.
En 1 minute. je dirais que, déjà, cette clause, elle n'est pas forcément là pour la sanction, même si je comprends la déception. L'idée, je crois, en tout cas, n'est plus de voir dans l'Union européenne le gendarme des conditions africaines internes. L'existence des clauses pose une condition forte à la qualité, si j'ose dire, des relations entre les relations euro-africaines et va justifier aussi le financement de soutien structurel à différents pays africains en vue de la promotion des droits de l'homme et du principe démocratique. Alors maintenant, là où je suis complètement d'accord avec toi, Selma, et c'est mon vœu que j'espère bien mettre en réalisation dans les années à venir avec d'autres, et ceux qui le souhaiteront, c'est que oui, il faut des études africaines, enfin des études de terrain, je ne sais pas si on a besoin absolument sur le terrain, mais en tout cas, certains auront besoin d'y être, c'est sûr, pour faire une appréciation des transformations institutionnelles, de l'impact, de l'évolution, de la conditionnalité quant à le droit de l'aide, etc. Ces études existent, hein, je ne dis pas qu'elles n'existent pas, mais moi, je serais ravie de participer à des échanges avec des collègues africains qui s'intéressent justement, comme moi, je m'intéresse à l'Union européenne et à ses moyens d'action, au cadre et à l'évolution extraordinaire du cadre institutionnel et politique, que ce soit dans le cadre panafricain ou dans le cadre des organisations régionales intégrées. Donc oui, il y a un champ d'études encore important, je ne dis pas qu'il n'existe pas, qu'il n'est pas couvert du tout aujourd'hui, mais il mérite d'être approfondi encore, ça c'est certain. Et ce par pays. Enfin, oui, il y a un champ incroyable
un champ de recherche.
Ah, énorme.
Ça nous promet des. Oui, mais peut-être qu'on ne connaît pas aussi, parce que nous, on a aussi notre biais, hein, qui est à la fois méthodologique, territorial, etc. Effectivement, je pense qu'on ne connaît pas tous les travaux des chercheurs africains ou des chercheurs qui travaillent sur la situation des États d'Afrique et qui mériteraient vraiment d'être connus. En tout cas, ça nous offre encore de beaux séminaires en perspective. Je vous remercie à tous d'être présents. Je renouvelle mes remerciements aux adhérents de l'association Europe Val-de-Loire qui ont été avec nous aujourd'hui. Merci à tous. Merci beaucoup, Karine Abderrahman, de nous avoir délivré un séminaire et une pensée qui est aussi riche, hein, comme d'habitude, et en même temps extrêmement claire, extrêmement bien construite, très, très, très intéressant et qui, je n'en doute pas, va nous donner à réfléchir pendant encore quelques temps. Donc, Karine, tu sais qu'il y a de nouveaux séminaires qui vont avoir lieu et sur lesquels nous travaillons. Donc, n'hésite pas si tu penses qu'il y a matière à approfondir, à revenir, à développer des éléments que tu n'as pas pu faire. Je pense que nous serons tous collectivement ravis de t'accueillir dans nos séminaires. Nathalie, tu voulais dire un petit mot ?
Je voulais juste remercier Karine d'avoir participé à ce séminaire pour sa contribution magnifique qui nous a beaucoup, beaucoup apporté, je pense, parce que c'est vraiment un sujet, en tout cas moi, c'est un sujet sur lequel j'ai très, très peu de connaissances. Ouais. Donc, merci beaucoup de ces connaissances et de cet éclairage en plus particulier qui m'a beaucoup apporté. Et puis, je vous donne tous rendez-vous en septembre. Je crois que c'est le 27 septembre que nous retrouvons Rosella Carré, notre collègue italienne, qui va nous présenter une communication sur un sujet très financier. Oui. Nous allons beaucoup être spécialisés sur un domaine très, très pointu. Je vois ma collègue Nathalie Lévy qui a invité Rosella Carré et qui nous rejoint à cette occasion. Merci beaucoup et puis rendez-vous en septembre. C'est le 27, hein, je crois, Nathalie.
Exactement. Oui, merci beaucoup, Karine, pour cette brillante intervention. Ouais. On a bu tes paroles. Merci
passionnant.
Beaucoup.
Passionnant. Merci. Et donc,
je regrette donc, une chose, c'est de ne pas être avec vous maintenant, en présentiel, bien sûr. C'est tellement plus sympa.
Une prochaine fois.
Merci pour l'invitation, en tout cas. Merci.